VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du vendredi 8 décembre 2023 avec vous Eric Manilakidza. D'abord les titres. Réduction drastique de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en RDC pour les élections du 20 décembre. Approbation contestée de la commission électorale au Burundi, tension autour de sa composition et dénonciation d'une violation de procédure. 30 ans après sa disparition, Félix Houphouët-Boigny, honoré en Côte d'Ivoire.
Tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire comme édifice, comme construction et autre chose, sont les produits du père Félix Houphouët-Boigny.
La présidente tanzanienne sur les lieux des glissements de terrain meurtriers dans le nord du pays. Elle appelle à la prévention et promet des mesures de reconstruction. Le ministre britannique des Affaires étrangères appelle au Congrès américain à approuver une aide cruciale pour l'Ukraine lors d'une visite à Washington. Le président Joe Biden s'engage à une nouvelle ère prometteuse pour les communautés amérindiennes lors du sommet américain des natifs.
Il est difficile de réparer les torts du passé, de changer le cap et d'aller de l'avant. Mais les mesures que nous prenons aujourd'hui constituent des étapes clés vers cette nouvelle ère de souveraineté tribale et d'autodétermination.
Le Conseil de sécurité de l'ONU, sous pression du secrétaire général Guterres, pour adoption d'un appel à un cessez-le-feu à Gaza. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'Union européenne a confirmé hier la présence de sa mission d'observation électorale en République démocratique du Congo pour les élections du 20 décembre. Cependant, cette mission sera réduite à 8 experts qui resteront à Kinshasa. Jean-Roger Billon fait le point. Antoine-Roger Boulamba fait le point.
La mission électorale de l'Union européenne, initialement invitée à observer les élections générales du 20 décembre 2023 dans l'ensemble du pays, a été réduite à une mission d'experts qui vont analyser le processus depuis Kinshasa en accord avec les autorités de la RDC, a indiqué Nabila Masrali, porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. L'Union européenne a annoncé le 29 novembre l'annulation de sa mission d'une cinquantaine d'observateurs dans tous les pays, invoquant des raisons techniques. Des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales sont prévues le 20 décembre. Le président sortant, Félix Tshisekedi, est candidat face à une vingtaine de concurrents dont seuls quelques-uns battent campagne en fonction de leurs moyens et de leur implantation politique. La société civile, les églises congolaises et le centre Carter vont surveiller ces élections de même qu'une équipe de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe.
L'Assemblée nationale burundaise a largement approuvé la formation de la Commission électorale nationale indépendante malgré les contestations de l'opposition concernant une présumée violation de procédure. Rosine Munezero fait le point sur cette controverse.
Le nouveau président de la CENI, qui est composé de 7 personnes, sera l'actuel porte-parole du gouvernement Prosper Nargwamiye. La Commission électorale a déjà été validée à une très large majorité mercredi par le Sénat. Une partie des députés du principal parti, le Conseil national pour la liberté, ont boycotté le vote, dénonçant une violation de la procédure. La CENI est une commission très importante dans la vie du pays et dans la préparation d'élections justes. Nous refusons de participer au vote aussi parce que nous n'avons pas été consultés sur sa composition, a dénoncé Pamphile Malaika, député du CNL. Nous sommes des démocrates. Ceux qui veulent peuvent sortir et ne pas participer au vote. C'est la démocratie, a de son côté affirmé depuis son perchoir le président de l'Assemblée nationale, Gélas Daniel Ndabirabe. Les prochaines élections législatives sont prévues en 2025 au Burundi.
Le Zimbabwe tient samedi des élections législatives partielles. La quasi-totalité des candidats de l'opposition ont été interdits de participer. Le président Emmerson Mnangagwa cherchant à s'assurer, selon les observateurs, un long règne sans partage. Harare a tenu des élections générales en août dernier. Il n'a manqué que 10 sièges au parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1980 pour décrocher la majorité des deux tiers et être libre de réviser les lois du pays. Depuis le bombardement accidentel de civils dimanche dernier dans le nord-ouest du Nigeria, l'armée est sous le feu des critiques de la société civile qui réclame une enquête approfondie, voire des sanctions contre les militaires. Dimanche soir, un tir de drone de l'armée nigériane a visé le village de Tudunbiri dans l'état de Kaduna, dont les habitants célébraient la fête musulmane du Maulid, tuant accidentellement au moins 85 personnes et faisant 66 blessés, selon les sources officielles. L'ONG Amnesty International a avancé de son côté un bilan de plus de 120 morts. La présidente tanzanienne sur les lieux des glissements de terrain meurtriers dans le nord du pays, elle appelle à la prévention et promet des mesures de reconstruction.
Cette catastrophe a coûté la vie à 76 personnes dans la région de Katesh jusqu'à cet après-midi, a déclaré Samia Soulu Hassan, révisant à la hausse un précédent bilan de la catastrophe survenue la semaine dernière dans la ville de Katesh, au nord de la capitale Dodoma. Les images diffusées à la télévision montrent des débris de maisons, des meubles éparpillés dans les rues, ainsi que des routes, des lignes électriques et des réseaux de communication interrompus. Quelques 5600 personnes ont été déplacées par les glissements de terrain, selon le porte-parole du gouvernement Mobare Matinyi. Cette catastrophe est aussi un signal d'alarme pour le gouvernement qui doit se préparer à détecter les signes et alerter la population à l'avance afin d'éviter des conséquences aussi graves, a déclaré la présidente qui a promis que l'État va contribuer aux efforts de reconstruction. La Tanzanie et ses voisins d'Afrique de l'Est, le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie sont tous confrontés à des inondations soudaines causées par des pluies torrentielles.
Les précisions d'Odilidico, les pluies diluviennes qui touchent l'Afrique de l'Est, effectivement, depuis octobre, ont fait plus de 300 morts et ont été jusqu'à deux fois plus intenses à cause du changement climatique causé par l'activité humaine, selon une étude scientifique publiée jeudi. Les intempéries qui ont touché l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie entre octobre et décembre ont été l'une des plus intenses jamais enregistrées dans la région.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Sous pression du secrétaire général, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce vendredi sur un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, et un vote à l'issue incertaine dans un contexte diplomatique tendu. Dans une lettre adressée mercredi aux membres du Conseil, Antonio Guterres a invoqué explicitement l'article 99 de la Charte des Nations Unies qui permet au secrétaire général d'attirer l'attention du Conseil sur un dossier qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Une première depuis des décennies. Par ailleurs, le président américain Joe Biden a affirmé jeudi au Premier ministre Benjamin Netanyahou qu'il était essentiel de protéger les civils alors que de violents combats urbains font rage dans et autour dans des plus grandes villes de Gaza, a annoncé la Maison Blanche. David Cameron, ministre britannique des Affaires étrangères en visite à Washington, a plaidé auprès du Congrès américain pour l'approbation d'un nouveau financement pour l'Ukraine. Il a également eu des discussions avec Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, Jack Aristide.
Je crains que nous ne fassions pas ce que nous devons faire pour le peuple ukrainien, a déclaré David Cameron lors d'un forum sur la sécurité dans la capitale américaine. Nous devons leur donner les armes, le soutien économique, le soutien moral, le soutien diplomatique, mais surtout le soutien militaire qui peut faire la différence, a-t-il ajouté devant le Aspen Security Forum. Le ministre britannique des Affaires étrangères effectue son premier déplacement aux États-Unis depuis sa nomination. Il y a deux jours, le Congrès américain a échoué à avancer sur une grande enveloppe de plus de 106 milliards de dollars réclamée par le président Joe Biden, comprenant des fonds pour l'Ukraine et Israël. « On doit envoyer cet argent aux Ukrainiens », a plaidé David Cameron, qui a été Premier ministre du Royaume-Uni entre 2010 et 2016. « On doit les soutenir et faire en sorte que ce soit Poutine qui perde, car si cet argent n'est pas voté, il n'y a que deux personnes qui souriront, Vladimir Poutine en Russie et Xi Jinping à Pékin », Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas envie de leur faire un cadeau de Noël, a-t-il dit.
Depuis quelques mois en Californie, les migrants qui parviennent à franchir la frontière avec le Mexique s'entassent dans des campements en plein désert où ils subissent des conditions déplorables dénoncées par des associations. Les militants dénoncent l'existence de ces camps de détention à ciel ouvert, supervisés par la police aux frontières, où les candidats à l'exil doivent attendre pendant des jours que leur cas soit pris en charge par les services d'immigration. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez John Lydon dans sa Minute Éco.
La compagnie minière canadienne Global Atomic a annoncé mercredi une levée de fonds pouvant atteindre 50 millions de dollars canadiens. Ces fonds seront, selon l'agence Ecofin, affectés au développement du projet d'uranium d'Assa au Niger. Le Niger, qui a su 4% de l'offre mondiale et qui a les réserves pour en produire davantage. Les pays africains devraient être exemptés de l'application du mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières. C'est le plaidoyer fait hier mercredi, selon l'agence Ecofin, par le président de la Banque africaine de développement. Pour le patron de la BAD, l'application de ce mécanisme risque d'engendrer un manque à gagner de 25 milliards de dollars par an pour le continent. Ici aux États-Unis, McDonald's voit son réseau atteindre 50 000 points de vente d'ici 2027, soit environ un quart de plus que son total actuel, a annoncé mercredi le géant américain de la restauration rapide. La chaîne comptait 40 275 restaurants fin 2022, selon son rapport annuel, dont environ 95% de franchisés, un chiffre en hausse de 17% sur 10 ans.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo est avec nous. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
L'Égyptien Mohamed Salah, le Marocain Achraf Hakimi et le Nigérian Osimhen sont les finalistes pour le titre du meilleur joueur africain.
Oui, l'attaquant égyptien Mohamed Salah, le défenseur marocain Achraf Hakimi et l'attaquant nigérian Victor Osimhen sont les trois nommés pour le prix du meilleur joueur africain de l'année. Selon l'annonce faite par la Confédération africaine de football, Osimhen, champion d'Italie avec Naples et quart de finaliste de la Ligue des champions, et Salah de Liverpool ont été les deux premiers joueurs africains au classement du dernier Ballon d'Or. 8e place pour Osimhen, 11e pour Salah. Hakimi du PSG peut lui s'appuyer sur le beau parcours du Maroc au Mondial 2022, les Lions de l'Atlas étant la première sélection africaine à atteindre les demi-finales de la compétition. Le lauréat sera connu le 11 décembre à Marrakech, au Maroc.
Une suspension de 4 ans requise contre Paul Pogba.
C'est la réquisition du parquet antidopage italien contre le champion du monde 2018 de la Juventus, testé positif à la testostérone en août. En 2027, Paul Pogba aura 34 ans. Le milieu international français pourrait ne pas pouvoir rejouer d'ici cette échéance si le réquisitoire du parquet italien est suivi. Mais la suspension peut toutefois être réduite de moitié si le Français démontre une non-intentionnalité. Elle peut être même limitée à quelques mois si l'usage de la substance a eu lieu hors compétition et n'est pas lié à son niveau de performance. Le joueur de 30 ans a été contrôlé positif en août à l'occasion du match entre Udinese et la Juventus, rencontre de la première journée du championnat d'Italie, qu'il n'a pas disputé. Moins d'un mois après sa suspension à titre provisoire le 11 septembre par l'agence antidopage de l'Italie, Paul Pogba a vu l'analyse de son échantillon B, celui de la contre-expertise, confirmer la présence de métabolites de testostérone, hormone de fertilité et de la sexualité masculine qui favorise le développement musculaire.
Avant de nous quitter, Yacouba, le fonds américain Actos Partners acquiert une part minoritaire du capital du Paris Saint-Germain.
Le fonds d'investissement américain Actos Partners a pris une participation minoritaire au capital du Paris Saint-Germain. L'annonce a été faite par le club, précisant que le propriétaire qatari Qatar Sport Investment va continuer à maîtriser toutes les décisions prises au PSG. Selon une source proche du QSI, Actos a pris 12,5% du capital des champions de France sur la base d'une valorisation totale du club de 4,25 milliards d'euros. Ce partenariat constituera la base de la prochaine phase de croissance mondiale du PSG et va favoriser les succès footballistiques et commerciaux du club, a écrit le PSG dans un communiqué. Le fonds d'investissement QSI a acheté le PSG en 2011 au précédent propriétaire Colonie Capitale, le club étant valorisé à l'époque à 70 millions d'euros.
Page Sport, signé Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Il y a 30 ans, jour pour jour, le 7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny quittait ce monde, laissant derrière lui un héritage vénéré tant par les citoyens ivoiriens que par les partis politiques du pays. Une journée commémorative lui a été dédiée à Yamoussoukro, sa ville natale, ainsi qu'à Abidjan. Pour en savoir davantage, notre correspondant sur place, Ange Nomenyo, nous livre les détails de cet événement.
La paix est un mot qui revient sur toutes les lèvres lorsqu'on évoque le nom de Félix Houphouët-Boigny. L'ancien président ivoirien aura marqué toute une génération grâce à l'accomplissement de ses œuvres. Certains membres de son parti, le PDCI, ne tarissent pas d'éloges à son égard. Cyril Yoboué, membre du PDCI-RDA.
Comme héritage que le père Félix Houphouët-Boigny nous a laissé, comme vous le voyez, d'abord parlons des héritages. Tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire comme édifice, comme construction et autres choses, sont les produits du père Félix Houphouët-Boigny. En tant qu'héritage, la première chose qu'il nous a laissé, qui est devenue aujourd'hui un comportement pour nous les militants du PDCI-RDA, c'est la paix, la cohésion, l'amour. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater, malgré les nombreuses tentatives de déstabilisation du PDCI-RDA, les militants sont restés attachés à leur idéologie, qui est la paix.
À Yamoussoukro, ce jeudi 7 décembre, une messe commémorative a été organisée pour marquer les 30 ans d'anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny. Une délégation du parti au pouvoir, le RHDP, a également fait le déplacement. Kobenan Adjoumani, ministre de l'Agriculture et ministre d'État.
Vous savez très bien que le temps du président Félix Houphouët-Boigny se rime avec la paix. Et vraiment, nous sommes ici pour célébrer cette date anniversaire de cette personne. Houphouët-Boigny, l'occasion est belle. Mais toujours dans le sens-là, dans le sens-là, et dans la vision du président Félix Houphouët-Boigny, pas de plus normal qu'à l'occasion de cette célébration, il se fasse représenter.
L'ancien président Félix Houphouët-Boigny est décédé le 7 décembre 1993 à des suites d'un cancer. Il laisse l'image d'un dirigeant bâtisseur ayant assuré la cohésion du pays lorsqu'il était au pouvoir, malgré les années de parti unique. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Le président Omaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau a dissous le Parlement, majoritairement dominé par l'opposition suite à des affrontements armés qu'il a qualifiés de tentatives de coup d'État survenues 3 jours auparavant. Les violences entre factions militaires rivales à Bissau jeudi soir se sont poursuivies vendredi dernier. Idriss Fall a joint Domingo Simeos Pereira, président du Parlement, représentant du parti vainqueur des élections législatives de juin de cette année, pour obtenir son analyse de la situation.
Tout ce que je peux vous assurer, c'est que Omaro Sissoko Embalo a toujours promis qu'il allait trouver des mécanismes pour renverser la victoire du PAI Terre Lanka dans les élections de juin 2023. Donc, les choses se présentaient bien. C'était le moment où les éléments du parti Madame Jekin, le parti qui soutient le président, réclamaient que le président devait dissoudre le Parlement. Et juste après, toutes ces affaires d'arrestation des ministres, libération des ministres, coup de force, tout ça, excusez-moi, à une preuve du contraire, a été des machinations, de montage. Tout a été préparé pour donner au président de la République le droit d'évoquer une crise profonde et prononcer la dissolution du Parlement. Ce qui n'est pas valable parce que la Constitution de la République, article 94, interdit au président de la République de dissoudre le Parlement dans les premiers 12 mois de son fonctionnement.
Maintenant, vous contrôlez une majorité au Parlement et au gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer encore?
Nous, ce qu'on réclame, c'est le droit de clarifier les choses et de connaître la vérité. Que le peuple guinéen-bissau-guinéen ait accès à ce qui s'est vraiment passé. Le président arrive de l'extérieur, parce que là, on dit coup d'État. Mais coup d'État, le président était à l'extérieur. Et le coup de force qui s'est produit était très loin du palais présidentiel. C'est même la garde présidentielle qui a ouvert le feu contre la garde nationale. Comment cela peut être qualifié comme coup d'État? Nous, ce qu'on réclame, c'est la restauration des institutions de la République, notamment de l'Assemblée nationale populaire, pour que le débat ouvert puisse produire la clarification sur ce qui est arrivé, dégager les conséquences qu'il faut.
Et est-ce qu'il y a moyen de sortir de cette crise? Parce que le pays est souvent dans des crises à répétition.
Oui, mais vous savez, ça c'est une justificative qui est utilisée quand cela convient. Aujourd'hui, quelle est la raison pour cette crise? Il n'y a pas de crise. Il y a eu un montage, il y a quelque chose qui a été forcé, une cabale, pour justifier qu'on vit une situation de crise et appeler à soi toutes les compétences de décider s'il y a corruption ou non, s'il y a coup d'État ou non, qui est derrière, arrêter qui on veut et faire la justice à notre manière.
Domingo Simoes Pereira, président du Parlement, représentant du parti vainqueur des législatives de juin dernier. Les Palestiniens signalent une escalade de la violence des colons israéliens en Cisjordanie depuis le début de la guerre contre le Hamas le 7 octobre, tandis que l'administration Biden accroît la pression sur Israël pour mettre fin à ces actes violents en interdisant aux colons extrémistes impliqués dans des attaques de voyager aux États-Unis. Henry Wilkins s'est rendu sur les sites de récents affrontements et partage son reportage depuis la ville de Karawat Bani Hassan en Cisjordanie. Le récit est signé Yacouba Ouedraogo.
Dans les oliveraies de Karawat Bani Hassan en Cisjordanie, des villageois palestiniens ont escorté la VOA jusqu'à l'endroit où Ahmed Assi, 41 ans et père de 6 enfants, a été tué lors d'affrontements avec des colons israéliens 3 jours auparavant. Othman Mustafa Assi, frère du défunt, affirme que les villageois ont trouvé sa voiture abandonnée au milieu de la route.
Quelqu'un de la ville a repéré sa voiture à l'endroit où l'incident s'est produit. Nous nous sommes donc rendus sur place et les personnes qui étaient avec lui l'ont cherché à l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Il a été retrouvé abattu et devait être mort depuis environ 4 heures.
Les colons venaient d'une colonie située de l'autre côté de la vallée. Sur une carte dans son bureau, le maire de Karawat Bani Hassan, Ibrahim Hassi, montre les colonies israéliennes qui entourent sa communauté. Il explique qu'un autre habitat a été tué par des colons en février, mais qu'ils ont épuisé tous les moyens de demander justice pour ce meurtre auprès des autorités palestiniennes ou israéliennes.
Nous appelons tous les citoyens libres du monde entier, en particulier ceux d'Amérique et de Grande-Bretagne, à intervenir pour empêcher Israël de perpétrer ces massacres et à les tenir pour responsables de ces actes commis par des colons placés sous sa protection. Ces colons s'en prennent à des civils qui n'ont aucun moyen de protéger leurs terres.
Ces dernières semaines, l'administration Biden fait pression sur Israël pour qu'il mette fin aux violences commises par les colons israéliens à l'encontre des Palestiniens. Le 5 décembre, les États-Unis ont annoncé qu'ils interdiraient aux colons extrémistes d'obtenir des visas américains. Dans ce cycle de violence, 31 Israéliens, dont des enfants, ont été tués en Cisjordanie par des Palestiniens cette année, selon les données de l'ONU. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que les morts causées par les colons israéliens ont doublé depuis le début de la guerre et que les colons sont mieux armés et plus agressifs. Bill Van Esveld est chercheur à l'ONG Human Rights Watch.
Dans les problèmes précédents avec les colons, il y avait un seul homme avec une arme de poing. Mais maintenant, il y a un groupe d'hommes et ils ont tous des M16 et les menaces sont beaucoup plus sévères et immédiates, comme vous devez quitter votre communauté dans les 5 jours.
Dans une réponse écrite à VOA, les responsables des forces de défense israéliennes ont déclaré, je cite, « Les forces de défense israéliennes et l'administration civile prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir la sécurité de tous les résidents des villes et villages de la région. » Fin de citation. Mais le maire affirme que celles-ci soutiennent les colons. Quant au fils aîné d'Assi, Nouridine Assi, 15 ans, il dit qu'il n'arrivait pas à croire que son père était mort lorsqu'il a appris la nouvelle.
Ils m'ont fait assumer la responsabilité de ma famille à un si jeune âge.
Le Conseil régional des colons israéliens n'a pas répondu à la demande de commentaire de la VOA.
Salut! Retrouvez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux connaître les maladies et les dernières nouvelles concernant la santé dans votre région grâce à l'intervention des médecins et d'autres professionnels de santé ainsi que les témoignages des patients. N'oubliez pas, votre santé, votre avenir, c'est tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel sur VOA Afrique.
Le président américain Joe Biden promet d'ouvrir un nouveau chapitre prometteur pour les 570 communautés amérindiennes. Il s'engage à améliorer leurs conditions de vie en facilitant leur accès aux financements fédéraux. Nathalie Barge relate un compte rendu de la correspondance de VOA à la Maison-Blanche, Anita Powell, qui s'est rendue au ministère de l'Intérieur lors du sommet des natifs américains.
S'exprimant sur la terre ancestrale du peuple Nakotchtank, le président Joe Biden a annoncé plus de 190 accords lors de ce sommet avec environ 300 chefs tribaux.
Il est difficile de réparer les torts du passé, de changer le cap et d'aller de l'avant. Mais les mesures que nous prenons aujourd'hui constituent des étapes clés vers cette nouvelle ère de souveraineté tribale et d'autodétermination. Une nouvelle ère fondée sur la dignité et le respect qui reconnaît vos droits fondamentaux à gouverner et à grandir selon vos propres conditions. C'est le but de ce sommet.
Les accords comprennent un décret sur l'accès au financement fédéral, le nettoyage des sites nucléaires, le soutien aux transitions énergétiques et le rapatriement des restes indigènes et objets culturels. Chuck Hoskinis, chef de la nation Cherokee, a dit à la Voix de l'Amérique que les efforts du gouvernement sont positifs et qu'il souhaite en voir davantage.
Je pense que la chose la plus importante pour la nation Cherokee et pour toutes les tribus est le déploiement efficace des ressources, puis de nous permettre de décider comment les utiliser.
Le chef Cherokee a rappelé que la dépossession des terres et les conflits ne sont pas de l'histoire ancienne.
Nous avons toujours été dépossédés de nos terres et donc je dirais simplement rappeler aux gens qu'il existe un moyen d'équilibrer les droits. Je pense que nous essayons de faire cela aux États-Unis. Ce n'est pas parfait, mais nous faisons des progrès. Donc tout ce que je dirais, c'est que le respect et la dignité que chaque être humain mérite doivent être affichés.
Saraya Taylor, membre des communautés Apache et Navajo de White Mountain, est la première jeune poète lauréate de Phoenix.
J'ai voté pour Biden en 2020 et je crois qu'il y a tellement plus à faire, notamment en termes de climat et de manière à envisager la souveraineté alimentaire.
La jeune poète a souligné que si elle pouvait demander quelque chose au président américain, ce serait un cessez-le-feu à Gaza.
Si cela nous arrivait, j'aimerais croire que cela cesserait immédiatement. Mais, vous savez, étant donné que le président Biden n'appellera même pas à un cessez-le-feu, je n'en sais rien.
Saraya Taylor dit travailler sur le traumatisme générationnel à travers sa poésie, mais aussi en se couvrant de la tête aux pieds pour rendre hommage au talent artistique et à la persévérance de son peuple.
Le Monde aujourd'hui avec Eric Manirakiza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Fatouma Alimas Kalala a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Bon week-end. À la prochaine.